Et nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu ce matin. Alors, vous allez pouvoir chercher dans le livre de Lévitique, chapitre 11. Alors, peut-être vous connaissez l'expression qui existe en allemand, en anglais, en français, peut-être d'autres langues encore, qui dit « le diable est dans les détails ». En gros, c'est une expression pour dire qu'il faut faire attention aux moindres détails pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Mais peut-être connaissez-vous également l'expression qui a été employée par les auteurs des cantiques chrétiens à l'époque des Wesley, dans le 18e siècle, qui a été repris plus tard par le fondateur de l'armée du salut, qui disait « Mais pourquoi laisser toute la bonne musique au diable ?» Moi, ce matin, je vais faire une variation là-dessus et dire « Pourquoi laisser les détails au diable ?» Parce que finalement, selon la Bible, Dieu s'intéresse aux détails aussi et parle souvent des détails. Donc, justement, Lévitique, chapitre 11, versets 26 à 38. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ce que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé: ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose, sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Alors j'avoue, c'est un passage de la Bible sur lequel j'ai rarement prêché, si jamais, qu'on utilise rarement dans le culte. Et je pense, si on avait un sondage anonyme et honnête ce matin, on serait aussi sans doute pas mal à dire qu'on ait même rarement lu ce passage. C'est le genre de passage sur lequel on tombe dans sa lecture quotidienne où on dit « Bon bah, je vais peut-être vite passer à autre chose ». Nous, on a l'avantage, à notre époque, on a toute la Bible sur laquelle s'appuyer, donc on a tendance à tomber sur des passages comme ça, et à dire, bon, bah, je vais peut-être passer à quelque chose dans le Nouveau Testament, ou lire un des psaumes, c'est beaucoup plus à notre goût, n'est-ce pas, que de lire ce que Israël devait faire au cas où un petit reptile tomberait mort dans un jarre d'eau ou en cas où on trouverait une souris morte dans la cuisine. Mais finalement, nous qui disons, ben, je préfère lire les psaumes, ben, le psalmiste qui a écrit les psaumes, lui, il n'avait pas ce privilège que nous avons d'avoir accès aux psaumes, d'avoir accès au Nouveau Testament pour se divertir dans sa lecture. Lui, il avait surtout, justement, les textes de la loi de Moïse. Bon, peut-être Josué, peut-être Job, mais surtout ces textes de la loi. Et pourtant, voici ce que lui, il a écrit au sujet de ces textes-là dans le psaume 119, à partir du verset 97. Combien j'aime ta loi. Est-ce que vous avez aimé notre lecture ce matin au sujet des souris et des lézards? Le psalmiste dit « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Quand on vient de lire un texte pareil, est-ce qu'on s'arrête pour la méditer ou est-ce qu'on passe au plus vite à autre chose? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Donc, le psalmiste que nous aimons bien lire, lui, il aime lire la loi de l'Éternel, et la méditer et l'observer. Et puis donc, regardons également ce que Moïse a dit le jour où il a livré ces textes de loi-là à la nouvelle génération d'Israël qui était prêt à sortir de leurs 40 ans dans le désert pour aller envahir le pays promis. Voilà ce que lui, il leur a dit quand il leur a expliqué ce qu'ils devaient faire au cas où ils trouveraient une souris morte dans la cuisine ou un petit lézard qui soit tombé dans la jarre d'eau. Deutéronome chapitre 4. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Je ne sais pas comment nous, on aurait réagi si nous avions été parmi ce peuple qui entendait Moïse dire « Mais qu'est-ce que vous avez de la chance ?» d'avoir ces textes de loi-là sur lesquels vous basez. Je pense, vu les quelques sourires que j'ai vus suite à notre lecture, On aurait sans doute dit quelque chose du genre, ah bah merci pour le cadeau. Mais finalement donc, pourquoi est-ce que le psalmiste est tellement admiratif devant cette loi? Pourquoi est-ce que Moïse dit ce qu'il vient de dire le jour où il donne la loi au peuple d'Israël? Pourquoi est-ce que tant de la loi de Dieu consiste en tellement de détails qui, franchement, nous semblent inutiles et où on ne voit pas quel lien possible il pourrait avoir entre ces lois et notre relation avec Dieu, entre ces lois et le fait de vivre avec Dieu et de louer Dieu? Ben, finalement, on trouve une clé pour comprendre le raisonnement de cela dans ce que Moïse dit le jour où il livre la loi au peuple d'Israël. Il souligne le fait que Israël était appelé à être le peuple saint de l'Éternel, ce peuple choisi par Dieu, et que Dieu donc les plaçait dans ce que lui il appelait son pays, son territoire, qu'il leur confiait pour vivre, et il les appelait à vivre en tant que peuple de Dieu devant toutes les autres nations. Eux, ils devaient révéler aux autres ce que ça voulait dire être le peuple de Dieu et à travers cela, qui était le Dieu d'Israël qui était au-dessus d'eux. Et donc, Moïse dit, les peuples autour vont vous regarder et ils vont voir qui est notre Dieu en voyant comment on vit, en regardant donc le témoignage de cette loi que je vous donne. Et la conclusion va être, quelle est la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Finalement, si Dieu donne à son peuple tellement de détails sur la vie pas franchement religieuse, nous on dirait, ben, aller sortir une souris morte de sa cuisine, ou savoir que faire lorsque un petit lézard tombe dans l'eau, ça n'a rien à voir avec la foi, rien à voir avec l'adoration. Mais en fait, Dieu était en train de dire à son peuple que être le peuple de Dieu, être le peuple saint, ça ne se limitait pas, comme on a vu dimanche dernier, au fait d'avoir un culte biblique. Ils n'étaient pas uniquement leur Dieu lorsqu'ils allaient au temple. Ils n'étaient pas uniquement leur Dieu et ils n'étaient pas en train de louer leur Dieu et d'adorer Dieu et de le servir lorsqu'ils apportaient leur sacrifice au temple. Mais Dieu leur dit, moi je veux partager votre vie entière. Je veux que vous soyez mon peuple saint du matin jusqu'au soir, non seulement les jours des fêtes religieuses, mais tous les jours. Je veux être impliqué dans votre vie de tous les jours, jusqu'à le moment où vous trouvez une souris morte dans la cuisine, jusqu'au moment où vous trouvez un petit lézard qui est décédé et tombé dans votre réserve d'eau. Je veux que même dans ces moments-là, les plus, on pourrait dire presque le plus banal de la vie quotidienne, je veux que vous vous rappelez de moi, que vous vous rappelez que moi je suis là, que vous sachiez que je suis votre Dieu, que vous êtes mon peuple et que nous sommes en train de vivre ensemble, même dans ces choses franchement banales. Lévitique, chapitre 26, verset 12, Dieu dit à son peuple, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » C'était ça son objectif pour le peuple d'Israël, d'être leur Dieu, que eux ils soient son peuple et qu'ils aient une relation proche à chaque moment. Et donc que même lorsque ils tombent sur une souris morte dans la cuisine, ils se disent, mais nous, Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu est là avec nous. Dieu veut qu'on s'occupe de cette situation d'une manière qui l'honore. Qu'il soit là avec nous, même dans cet instant-là. Parce que notre vie témoigne de cette relation que nous avons avec Dieu. Et en plus, Dieu nous invite à profiter de cette relation tout le temps. Dieu aurait pu limiter ces textes qu'à des lois concernant les prêtres, concernant le tabernacle, concernant les sacrifices. Mais il est allé beaucoup plus loin. Il a dit, là oui, je vous dis ce qu'il y a à faire parce que je suis là, j'habite ce temple-là, vous allez venir me rendre un culte, mais je suis un Dieu omniprésent. Je suis le Dieu qui est avec vous tout le temps, partout. Donc je veux avoir ma place dans votre vie de tous les jours. Il y a donc beaucoup de détails dans la loi de l'Ancien Testament, des détails qui soulignent le fait qu'en toutes circonstances, Dieu était là avec son peuple. Dieu voulait encourager son peuple à vivre cette relation avec lui et que cela témoigne de la nature de relation qu'ils avaient avec Dieu. Si nous sommes honnêtes et on regarde le Nouveau Testament, il y a beaucoup de détails aussi sur la vie chrétienne dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être pas concernant ce que nous devons faire lorsque on trouve une souris morte dans la cuisine, ou une petite bête qui est venue se noyer dans notre tasse de thé ou dans la réserve d'eau. Mais beaucoup d'autres détails, puisque il y a des choses qui ont changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu ne nous appelle pas à aller habiter sur le territoire d'Israël en tant que son peuple. Dieu n'a plus une nation sur la terre qui est son représentant plus que les autres, mais il a toujours un peuple saint. Dans le monde entier, dans toutes les nations de la terre, toutes ces personnes qu'il a sauvées par sa grâce, comme on s'est rappelé lors de la Sainte Cène. Et donc, sur ce plan-là, les choses n'ont pas changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme Israël était le peuple saint appelé pour vivre comme nation de Dieu devant les autres nations, nous sommes appelés avec des croyants de toutes les nations, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont rachetés en Jésus-Christ, de vivre devant les nations comme peuple saint de Dieu. Et Dieu n'a pas changé, il est toujours omniprésent, il est toujours avec nous à chaque instant, il désire toujours vivre avec nous à chaque instant. Et donc, c'est pour cela que dans le Nouveau Testament aussi, il y a tellement de détails sur la vie courante, pas religieuse. Finalement, dans le Nouveau Testament, il y a peut-être encore moins, bien moins d'instructions sur la vie religieuse qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament parle très peu de comment structurer une église, de comment louer le Seigneur. Pour ça qu'on peut avoir tellement d'expressions d'église différentes, puisque la Bible laisse une grande liberté, si ce n'est elle applique les principes de l'Évangile à nos relations lorsque nous sommes en train de rendre un culte au Seigneur. Finalement, la Bible dit plus sur quelle doit être notre attitude l'un envers l'autre dans le culte, notre souci les uns pour les autres dans le culte, notre désir de voir nos frères et sœurs bénis, même plus que nous, et que Dieu puisse nous utiliser pour les bénir dans le culte, qu'elle ne parle de la structure du culte ou de l'Église. Mais la Bible dit, donc, comme Israël était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et que Dieu voulait être impliqué dans leur vie, le Nouveau Testament dit à notre sujet dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous continuons donc cette mission que Dieu avait confiée au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. À tous ceux, juifs et non-juifs, qui mettent leur foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à continuer cette mission d'être une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, qui sont les représentants de Dieu sur la terre, comme je disais, non plus dans un pays particulier, mais sur toute la terre, en attendant le jour où donc le Seigneur Jésus va revenir pour établir son règne éternel sur la terre, et où donc là, la terre entière sera son pays. Donc, la Bible parle de beaucoup de détails au sujet de notre vie chrétienne. Et lorsque la Bible parle de ces détails, ce n'est pas des choses que la Bible nous dit « Faites ceci et vous allez gagner votre salut » ou « Vous allez gagner des bénédictions de Dieu ». On a lu tout à l'heure, en introduction de la Sainte Cène, Éphésiens chapitre 2. « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Par le moyen de la foi, et même cela, dit Paul, ne vient pas de vous, même cela, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est là où il souligne nos bonnes œuvres, ces détails que Dieu souligne dans le Nouveau Testament ne sont pas là pour gagner le salut, ce qui est impossible, mais pour manifester le salut. Si nous croyons, dit Paul, que nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu, alors vivons, faisons ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, qui vont témoigner, moi je crois que Dieu dans sa grâce m'a sauvé par le moyen de la foi, et en reconnaissance pour cela, je vais tout faire pour accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi et qui m'a montré dans tous les détails de la vie chrétienne qu'il a spécifié dans sa parole. Donc, on a vu la semaine dernière, Dieu ne veut pas être notre Dieu uniquement pour le culte. Et la vie chrétienne ne se résume pas uniquement au culte. Donc je dis, il y a nettement plus de détails concernant la vie chrétienne de tous les jours, concernant les choses, on pourrait dire, banales, courantes de la vie de tous les jours, beaucoup plus que ce qui concerne le culte et l'Église. Dieu, donc, comme il voulait être tout le temps au centre de la vie du peuple d'Israël, il veut être tout le temps au centre de notre vie. Donc, il parle de comment vivre notre salut, comment vivre ce statut que nous avons d'être son peuple dans nos relations avec des chrétiens et dans nos relations avec ceux qui ne croient pas en Jésus. Comment exprimer nos relations? On l'a vu il y a quelques semaines lorsque David Charles nous a parlé du pardon et de comment pardonner. Dieu parle dans le détail de nos relations. Dieu parle dans le détail de qui, avec qui se marier. Et puis, une fois marié, comment vivre notre relation entre conjoints? Comment parler à notre époux ou à notre épouse? Comment traiter notre conjoint à la maison et dans nos relations? Dieu désire être impliqué, honoré dans ces détails-là. Il parle de comment nous devons nous comporter au travail, vis-à-vis de notre patron ou vis-à-vis de nos collègues. Il nous parle de comment nous devons gérer notre argent. Il parle de combien nous devons manger, combien nous devons boire. Il parle de quel genre d'humour nous devons avoir, quel genre de vocabulaire nous devons employer. Parce qu'il dit, vous êtes devenus par ma grâce, par le moyen de la foi, mon peuple saint. Vous m'appartenez 24 heures sur 24 et je veux être impliqué et honoré dans toutes ces choses, tout autant que le culte. Certaines personnes vont dire, ben, tout cela, c'est ma vie privée. Ça ne concerne pas le Seigneur. Moi, je veux pouvoir gérer ces choses dans ma vie. Je veux bien rendre un culte à Dieu. Je veux bien que Dieu me demande de faire partie de l'Église et de venir chanter, prier, qu'il me demande de lire ma Bible, qu'il demande que je fasse un certain nombre de choses. Mais mes relations, mon mariage, ma famille, mon argent, mon travail, ça c'est ma vie privée. Ça ne le concerne pas. Dieu n'est pas d'accord. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce sont donc des choses qui ne vont pas mériter le salut, qui ne vont pas gagner la faveur ou les bénédictions de Dieu. Mais ce sont des choses où Dieu dit, je vous ai sauvés, je vous ai rachetés par ma grâce. Je vous ai donné cette possibilité de devenir mon peuple par le moyen de la foi. Mais ce que je demande, c'est que, étant sauvé, étant racheté, étant mon peuple, vous me glorifiez tout le temps que vous êtes sauvé. Dans tous les aspects de la vie, je veux connaître une relation intime dans tous les domaines, tous les moments de votre vie. Notre chair n'aime pas cette notion. Déjà, notre chair a du mal avec l'idée qu'on ne peut rien apporter, rien ajouter à notre statut devant Dieu. On voudrait pouvoir au moins gagner des bénédictions de Dieu. Sauf que Dieu nous dit, tout est par ma grâce. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Je veux bien que Dieu rachète la partie religieuse de ma vie. Je veux bien le glorifier et lui offrir le temps où je suis à l'église, ou le temps où je suis devant la parole ou dans la prière. Mais après, il faut que je passe à la vie courante. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des choses qui sont de mon domaine. Mais Dieu dit tout est devenu mon domaine. Vos relations, les uns avec les autres, c'est mon domaine. Parce que je suis là. Et vous êtes mon peuple à ce moment-là. Votre mariage, c'est mon domaine. Parce que j'y suis et vous êtes mon peuple à ce moment-là. Votre travail, c'est mon domaine. Puisque je suis engagé en vous, j'habite en vous. Donc je suis aussi au travail avec vous. Tout ce qui sort de votre bouche, c'est mon domaine, parce que j'ai racheté votre bouche. Votre bouche m'appartient. Les seules choses qui restent à nous, de notre domaine, ce sont les choses qu'on pourrait faire qui n'engagent ni notre corps, ni notre esprit. Pour l'instant, moi, je n'ai rien trouvé qui n'implique ni mon corps ni mon esprit. Tout appartient à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Dieu va être honoré par cela. Je rappelle également les engagements que nous avons pris ce matin. Tu es mon prince de paix. Jusque-là, tout va bien. On veut bien que Dieu soit notre prince de paix, qui nous donne sa paix, qui règne. Sauf que l'embêtement, on a continué le chant. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. On n'a pas dit je veux te rendre le culte. On a dit je veux vivre ma vie pour toi. Tous les détails de ma vie étaient engagés. Puis après, on a chanté à nouveau merci. À nouveau, je répands ma vie. Puis on a chanté, je te donne ma vie pour toujours. Heureusement, on n'a pas aujourd'hui chanté, je te donne tout. Ce n'est pas pour dire que vivre la vie du peuple de Dieu dans tous les détails est facile. Le peuple d'Israël nous montre que ce n'est pas facile pour notre chair de vivre la vie d'un peuple saint à l'Éternel dans tous les détails de la vie. C'est pour ça que souvent ils ont laissé tomber. Ce n'est pas plus facile à notre chair. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne tous les jours sa croix et qu'il me suive. Que tous les jours, on cloue sur une croix notre moi qui voudrait garder son domaine privé, qui voudrait rester responsable pour certains domaines de notre vie et ne pas céder le contrôle au Seigneur. Ce n'est pas facile de faire ce choix-là. La bonne nouvelle, c'est pour cela que le Seigneur a dit, je vous donne mon Saint-Esprit, qui viendra habiter en vous, qui produira son fruit si vous l'écoutez, qui vous aidera dans ce choix de vivre tous les jours, de vivre votre vie pour moi. Ce n'est pas facile, mais ça reste néanmoins le style de vie pour lequel Dieu nous a sauvés. Je vous sauve, vous êtes devenus une nation sainte, un peuple acquis. Tout comme Dieu voulait être impliqué dans le moindre détail de son peuple lorsqu'il vivait en Israël, Dieu veut être impliqué dans le moindre détail de notre vie. Là où on se trouve aujourd'hui. Il veut que toute notre vie lui appartienne. Ou peut-être nous voudrions être sauvés qu'un jour de la semaine et pour, du coup, un septième de l'éternité. Dieu nous rachète entièrement. Il ne rachète pas qu'une partie de notre corps, il rachète tout. Il ne rachète pas une partie, un septième de notre vie, il rachète tout. Parce qu'il veut qu'on soit entièrement sauvé, entièrement son peuple, entièrement citoyen de son royaume, entièrement héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Pour terminer, quelques détails de la vie chrétienne qui soulignent ce que Dieu veut de notre vie en Colossiens, chapitre 3. Où donc, à nouveau, le Saint-Esprit, à travers Paul, souligne la relation entre les détails de notre vie, si nous sommes chrétiens, et ce que Dieu a fait pour nous, le fondement de notre salut. Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. » Alors, si on est chrétien, on espère bien être ressuscité avec Christ, parce que c'est comme ça qu'on entre dans la vie éternelle, comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que nous puissions prendre la décision, l'engagement de dire au Seigneur, vu ce que tu as fait pour moi, vu que tu m'as sauvé, que tu m'as pardonné en Jésus-Christ, vu que je suis ressuscité en Christ, quoi que je fasse, en parole ou en œuvre, je m'engage à tout faire au nom du Seigneur Jésus.